Et bonjour les amis, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burgering. Burgering, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, j'ai récupéré ma voix, j'avais eu une petite extinction de voix. C'est pour ça que vous avez ce podcast en retard, les amis. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis désolé pour le retard. Écoutez, on va parler d'un sujet qui me semble être vraiment, qui me semble sauter aux yeux en fait, hein, année après année. Vous savez qu'on vit, on vit au jour le jour cette république qui n'a absolument ni queue ni tête. Et vraiment, en fait, plus ça va, plus je trouve que l'absurde, ce qu'on appelait avant, hein, dans la génération de nos parents. On parlait de quelque chose d'ubuesque, de kafkaïen, en faisant référence à la pièce Ubu Roi et à l'œuvre de Franz Kafka, en fait, qui décrivait des sociétés qui n'avaient ni queue ni tête. Mais on est de plus en plus là-dedans, à tous les niveaux. Mais vraiment, parce que c'est vrai que quand on prend les choses indépendamment, les unes des autres, on peut noter que dans chaque civilisation, il y a des choses qui sont dysfonctionnelles, même à travers l'histoire de France, il y a des choses qui n'ont ni queue ni tête, il y a des choses qui sont injustes, et encore, l'injustice est encore différente de l'absurde, d'accord ? Parce que vous pouvez avoir de l'absurde qui soit injuste, mais vous pouvez avoir de l'injustice qui soit pas forcément absurde, qui peut s'expliquer, puis ensuite, il y a l'absurde injuste, inexplicable. C'est que vraiment, on est dans un truc complètement clownesque, et si vous voulez, plus ça va, plus j'ai vraiment l'impression que ce pays est en train de s'enfoncer dans quelque chose, mais qui n'a absolument plus rien à voir, plus aucune prégnance avec le réel et avec la logique. C'est l'enfer. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que quand les choses deviennent dysfonctionnelles, c'est la nature qui fait très très bien les choses. Quand quelque chose est dysfonctionnel, elle finit par le faire disparaître pour des questions d'évolution, pour des questions d'inadaptabilité ou pour des questions tout simplement de non-viabilité. Voilà, la nature elle est bien faite, mais des fois c'est dramatique, mais parce que c'est extrêmement triste, mais enfin, je sais pas si on peut dire que la nature est triste. Oui, les ours handicapés et plus petits que les gros ours se font bouffer par les gros ours. Bon, mais voilà, c'est la nature, c'est comme ça. C'est triste et en même temps, c'est ce qui garantit que la nature reste fonctionnelle. Et ça marche aussi pour tout ce qui est politique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin de l'Empire romain, parce qu'il faut comprendre, hein, avant qu'on aborde l'absurde de l'époque moderne, il faut comprendre les choses qui ont parfois projeté de très très grands empires très très puissants dans la médiocrité la plus absolue et dans une déchéance telle que ces grands empires tout puissants qu'ils étaient ont été complètement balayés et certaines fois par des ennemis médiocres. Donc voilà, ça vous rappellera sans doute une situation, mais on peut citer évidemment même avant l'Empire romain. On va faire de manière chronologique, on va faire quand même, parce que c'est finalement déjà faut remonter à la préhistoire. Voilà, c'est comme pour tout, faut remonter à la préhistoire. La préhistoire c'est simple. La préhistoire c'est très très simple parce que c'est le début. Tu vois, c'est le moment où on démarre là, quand tu vois. Donc il y a pas encore de fioritures. Il y a pas Versailles, il y a pas les meubles style directoire, il y a pas les patriciens si on veut remonter avant, il y a pas les seigneurs si on parle de Moyen Âge. C'est vraiment le tout début. C'est celui qui est le plus fort, peut-être accompagné de celui qui est le plus sage, qui dirige. C'est lui qui, parce qu'en fait, la force prime, hein, dans un monde où l'hostilité est partout. Hein, c'est-à-dire, si je fous un pied en dehors de la caverne et que je me fais faucher par un énorme ours de 3,5 tonnes, parce qu'en plus, il y avait des animaux qui étaient vraiment flippants là, à la préhistoire. Hein. Les tigres à dents de sabre au milieu de l'Ariège, si tu veux, c'est particulier, quoi, tu vois. Aujourd'hui, les seules bêtes sauvages que tu rencontres en Ariège, c'est les punks à chiens, quand, tu vois. Mais à l'époque, tu pouvais tomber sur un tigre à dents de sabre. Et d'ailleurs, je le dis au passage, il y a un super musée sur la préhistoire qui est à Tarascon-sur-Ariège, qui existe depuis une trentaine, peut-être, non pas quarantaine d'années, mais il doit exister depuis une trentaine d'années, même un peu plus, peut-être 35 ans, ce musée, et qui est en fait génial. Et vous pouvez tenter, il y a une partie dans ce musée où vous pouvez, alors déjà vous voyez la reconstitution de mammouth, vous voyez la reconstitution de mégacéros, hein, c'est les cervidés qu'il y avait à l'époque. Donc déjà, vous voyez ça, vous dites « putain, c'est impressionnant ». Et vous pouvez tenter, il y a une partie du musée où vous pouvez tenter de courir plus vite qu'un tigre à dents de sabre. En fait, on vous donne un taux de départ et vous devez parcourir, je crois, une dizaine de mètres ou 13 mètres, vous devez les parcourir en courant et vous devez essayer de pas vous faire choper par le tigre à dents de sabre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous donne le start, il commence à reculer pour faire son saut. Donc vous dites, bon, j'ai peut-être ma chance. Et en fait, systématiquement, quand vous faites le test, le tigre à dents de sabre a sauté. C'est-à-dire pendant que vous étiez au milieu de votre course, pendant que vous étiez aux 6-7 mètres, bon, vous me direz, t'es un gros lard. Il y avait même des mecs qui étaient très en forme sportivement, qui pouvaient rien faire contre le tigre à dents de sabre. Donc t'as le tigre à dents de sabre qui fait un saut, et en fait, tu te rends compte après, quand t'as fini, parce que je crois que t'as un système de vidéo où il te donne un résultat, et tu vois qu'en fait, tu peux rien faire. C'est que le truc, t'as sauté dessus et t'as éclaté. Donc, pour vous dire qu'à l'époque, il y avait ça dehors. Il y avait des tigres à dents de sabre. Et dedans, il y avait des ours des cavernes. Parce qu'en fait, dehors, tu te fais éclater. Excusez-moi, j'ai encore un peu la voix encore un peu prise. Tu rentres dans la caverne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ours qui hibernait, et puis c'est les ours du néolithique. Ça, vous les avez au musée de Gosse de l'Arbouste dans les Pyrénées. C'est un des musées dont je me rappelle le plus, parce que je l'avais visité quand j'étais gosse. T'as des os d'ours préhistoriques. Mais enfin, c'est je comprends pas pourquoi Dieu il a projeté l'homme là-dedans, en fait. À un moment, il a trippé, il a mis le niveau de difficulté de bâtard, en fait. Et il n'y a pas de code. On n'est pas dans les Jeux Empire, tu vois. Tu peux pas faire apparaître l'hélicoptère et le tank, tu vois. Donc, si tu veux, tu sors de la caverne, tu te fais éclater. Dedans, il y a l'ours. Bon, si t'as du bol, il n'y a pas d'ours dans ta caverne. Mais après, il y a les autres hommes qui veulent peut-être tes femmes, tes bijoux, tes richesses, tes lances, tes armes, ou tout simplement la place où tu es. Donc, en fait, c'est la guerre perpétuelle. C'est ce que les Noirs américains appellent le oud. Donc, tu es dans le oud. Et c'est pas un instrument de musique marocain, tu vois. T'es vraiment dans le oud toute la journée. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'y a pas de politicien. Il n'y a pas de politicien, il n'y a pas de féminisme. C'est-à-dire que déjà, si la femme parle pendant la levrette, c'est déjà pris comme étant une liberté... C'est déjà pris comme étant un truc de fémène. Parler pendant la levrette, c'est un truc de fémène au néolithique, en fait. Si tu veux. La première avancée du féminisme à la préhistoire, ça a été de pouvoir faire des phrases pendant la levrette. Il faut comprendre d'où on vient, quand. Donc, bon, les hommes préhistoriques sont adaptés. Tu vois, s'il y avait trop de paroles, au bout d'un moment... non, allez, j'arrête. Bon, bref. Et donc, tu te fais bouffer dehors, tu te fais bouffer dedans. Qui est le chef de la tribu? C'est pas celui qui a la plus grosse campagne, c'est pas celui qui a le plus gros consortium de médias avec lui, je sais pas quoi. C'est celui qui assure le plus, en fait. C'est le guerrier. Et souvent, il est accompagné d'un sage, parce qu'en fait, le sage, il a un peu d'expérience. Bon, pour être sage, faut avoir vécu. Hein. La moyenne de la mortalité, je crois, à l'âge de pierre, c'était 20 piges. Hein. Il me semble, mais je crois que je l'avais déjà dit, on me l'avait contesté. Il faudra que j'aille vérifier. L'âge moyen, voilà, c'est ça. C'est l'espérance de vie moyenne. Donc, quand on compte tous les enfants qui meurent, parce qu'en fait, les individus vivaient peut-être jusqu'à 40 ans. Mais il y avait plein d'enfants qui mouraient à... Il y avait peut-être la moitié des gens qui mouraient en couche ou en bas âge, donc ça faisait une moyenne à 20 ans. Donc l'homme préhistorique avait une moyenne d'âge... Il avait une moyenne d'âge de 20 piges. Mais il pouvait vivre jusqu'à 40 piges. Bon, à 40 piges, t'étais un sage, quoi. T'étais un vieux de la vieille. T'étais le mec dans le phare, là, dans Fort Boyard, là. T'étais le père, je sais plus quoi, père Fouras. Oh étranger, oh tu as bien fait de me poser la question. Voilà, tu avais ça, mais t'avais 40 ans à ce moment-là. T'avais 40 ans. Donc c'était ça, c'était le sage, le guerrier. Et puis après, les gens faisaient selon la volonté du guerrier, parce que c'était lui qui avait l'expérience du réel. Hein. Encore une fois, c'était quand les situations se tendent, on se tourne pas vers le statisticien en courbe économique de résilience de je sais pas quoi, de mon cul, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, c'est le réel. Donc, si tu veux, c'est le mec qui balance des javelots et à combien de joules, tu vois? À combien de... À son propulseur à javelot, à combien de joules il actionne pour éclater la fif d'un prédateur? C'est aussi simple que ça. Et du coup, après, comme il a sauvé tout le monde, y compris les tchouches de la tribu, eh ben, il a le droit de démonter les tchouches, si vous voulez. Il a le droit de démonter les tchouches. Donc, ça crée des tensions. Donc, après, évidemment, il y a déjà, à la préhistoire, sans doute, des empoisonnements, des jalousies, parce qu'il y a un mec qui convoite la femme du chef, ou parce que le chef, il a débourré la femme d'un mec qui en était amoureux, tout ça. Donc voilà, c'est l'éternelle histoire de l'humanité. Hein. C'est voilà, on a été mis sur Terre pour être testé, et ça fait des millions d'années que le démon se joue de nous et nous travaille. Donc évidemment, il y avait ce genre de truc. La préhistoire n'était pas exempte de manigances. Hein, voilà, mais le pouvoir, l'articulation du pouvoir était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, et elle était surtout beaucoup plus logique. Je suis en capacité de défendre ma tribu. C'est pour ça que j'en suis le chef. C'est moi qui ai le plus gros chibre. C'est moi qui ai la plus grosse lance. C'est moi qui ai le plus gros collier. C'est moi qui ai la plus grosse femme. Parce qu'à l'époque, ils aimaient les grosses. Hein. Parce que si tu veux, quand tu dois passer l'hiver, eh ben, tu préfères taper dans une grosse botte de beurre que te tringler un sac d'os, si tu veux. Donc voilà. Donc si tu veux, c'était... Et d'ailleurs, la mode féminine et la mode masculine évoluent. Elle évolue en fonction des époques. Elle évolue en fonction des nécessités. C'est-à-dire qu'en fait, les standards de beauté au néolithique, quand il faut se la filer contre des rhinocéros laineux, tu vas pas chercher le métrosexuel que vont chercher les gonzesses, bien que, attention, parce que... Elles vont les chercher sur un jonction de la pub, mais quand elles tombent sur un véritable homme, la nature revient au galop quand même. Hein. C'est-à-dire que la prégnance du coq, elle est possible parce qu'il y a une grosse... Il y a une grosse comment on appelle ça propagande, mais si vous voulez il y a aussi la nature, je vous en ai parlé de ça hein, le concours entre la doxa, la propagande médiatique et quand même la nature de la femme qui in fine a passé peut-être 30 000 ans dans une caverne et resté inscrit dans son cerveau malgré tout, même si c'est devenu une poule avec le temps, est resté inscrit la nécessité quand même d'être avec un homme qui peut pourvoir à sa sécurité et à sa survie. Alors, dans une société où tout est automatisé, où t'allumes le robinet, t'as l'eau chaude, où t'as faim, tu vas chercher un truc à Aldi, bon, c'est vrai que ça a un petit peu décalé et désué la présence de l'homme alpha. Mais au moment de se faire remuer dans le plumard, je peux vous garantir que quand même, la femme, au fond d'elle, préfère avoir affaire à un homme qu'avoir affaire à un métrosexuel. Voilà, c'est garanti sur facture. Bon, bref. Et même si je suis pas une femme, je vous l'affirme d'expérience. Bon, bref. Et je parle pas de moi forcément. Hein. Je vois en général. Je sais que les femmes, à un certain moment de leur vie, en fait, elles veulent un homme. Quoi. Bon, bref. Et donc le pouvoir à l'époque, c'est ça. Donc les choses sont pas trop absurdes, si vous voulez. Ben les femmes, ben logiquement, la ferme, font des poteries, s'occupent des gosses. Reste à la maison, enfin pardon, dans la grotte. Et de l'autre côté, les hommes, ben, comme ils ont une masse musculaire plus importante, qu'ils ont une spatialisation plus importante, vous avez qu'à confier vous avez qu'à confier à votre gonzesse le GPS et vous verrez pourquoi ils restaient dans la caverne à l'époque. Je sais que vous êtes des milliers qui m'écoutent à avoir déjà traversé cette expérience de confier la lecture du GPS à une gonzesse. Et en plus, alors, elle se trompe et elle te dit « Mais non, regarde, la ligne bleue, elle continue. » Mais oui, parce qu'en fait, il te redéfinit un autre chemin à chaque fois que tu te gourres. Donc en fait, tu fais des putains de détours de Mongol. Enfin, c'est l'enfer, en fait. Je dis pas que toutes les femmes n'arrivent pas à lire le GPS. Je dis que il y a une pattern, d'accord, qui revient régulièrement, qui fait que les femmes, elles n'arrivent pas trop à lire le GPS correctement et elles nous disent les choses au dernier moment. Oh, mais c'est pour ça que vous restiez dans la caverne, bordel. Donc en fait, si tu veux, les mecs, ils menaient la grande vie. Alors qu'est-ce que c'est que mener la grande vie? En fait, la grande vie, ça veut pas forcément dire que t'es en sécurité. La grande vie, c'est que tu vis des trucs grands, mais dans le mauvais comme dans le positif. Tu vis des trucs grands parce que tu pars à la chasse avec tes potes, tu lâches des caisses, tire sur mon doigt. Cette blague, elle a été inventée quand? Parce que les mecs, ils croient que ça a été inventé dans les années 80, ça. Ben non. Quand est-ce que ça a été inventé, ce truc? Tire mon doigt, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était des blagues comme ça. Donc tu partais à la chasse, vas-y, tire mon doigt, claque, voilà, et ça faisait rire tout le monde. On faisait ça, ils trouvaient des petits animaux, ils les éclataient. Parfois pour le plaisir, parfois pour s'entraîner. Après, ils trouvaient des gros animaux, ils les éclataient, ils faisaient du sport, ils couraient, il y avait des moments de tension. Alors apparemment, d'après les dernières recherches, je vous le dis au passage parce que je trouve que la préhistoire est une époque passionnante, apparemment, ils ne s'attaquaient pas aux mammouths, en tout cas dans certaines zones d'Europe, dans beaucoup de zones d'Europe, pardon. On n'a pas la preuve que les hommes se soient attaqués aux mammouths pour les manger. Apparemment, ils étaient vus comme étant des divinités et les représentations, vous voyez, des hommes avec des lances autour des mammouths, ça serait plutôt une manière de saluer le mammouth. Alors, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, alors ça, c'est une thèse, hein, c'est pas quelque chose d'avéré, mais c'est une thèse, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mal à trouver des traces de squelettes de mammouths qui auraient été travaillés avec des outils pour en retirer la viande. Donc, alors... ça veut pas dire qu'ils ne mangeaient pas les mammouths qui mouraient de vieillesse. C'est pas la question. Mais on ne trouve pas vraiment de preuves, stricto sensu, que les mammouths aient été consommés pour leur chair après avoir été tués. Voilà, c'est ça. Donc apparemment, c'était des divinités. Bon, peu importe. Donc si tu veux, tu raidais dans la pampa du néolithique. Tu te baladais, tu croisais des mammouths, tu croisais des mégacéros, enfin c'était magnifique, t'avais les grandes étendues, c'est ce qu'adorent les hommes, hein. On adore faire de la rando, on adore être entre nous, les gonzesses étaient restées à la caverne, on avait laissé un mec quand même dedans pour bon les féminines de la bande pour rester avec les femmes parce qu'on risque rien et que il peut les défendre au cas où, tu vois. Même si je pense que les femmes de la préhistoire, pour défendre leur enfant, ça c'est la merveilleuse faculté de la femme, étaient capables de faire des trucs de zinzin pour protéger leur progéniture. Hein. Ça j'en suis persuadé. Hein. C'est vraiment mon propos. Il est pas. Enfin je veux dire, alors je rigole et tout, mais je pense que s'il y a une bête sauvage qui rentre dans la caverne, je pense que les femmes du néolithique étaient tout à fait à même de se saisir d'armes et de tenter de défendre ce pour quoi elles ont été biologiquement créées, c'est-à-dire non pas avorter leur fœtus parce qu'elles ont pris un coup dans une fête à Paris, mais protéger l'enfant qu'elles sont censées amener à l'âge adulte. Bon, bref. Et donc, du coup, les hommes préhistoriques, ils se régalaient. Donc, ils vivaient des trucs grands. Et ils vivaient aussi des trucs grands dans le danger, dans le drame. Enfin, quand tu faisais un feu de camp et que t'étais entouré de loups jusqu'au petit matin et que le bois commençait à manquer parce que t'avais pas assez ramassé de bois ou que t'étais dans une zone où il y en avait pas assez et que le feu commençait à s'éteindre et que les loups, dès que le feu il est éteint, ils s'attaquent à toi. Eh ben, peut-être que c'était un moment où, c'était tendax, tu vois. Donc, à ce moment-là, curieusement, pas de wokisme, pas de remise en question de la société patriarcale, pas de commentaires sur les blancs, pas de commentaires sur la société des vilains blancs, pas de commentaires sur le colonialisme, je sais pas quoi. À ce moment-là, il faut bouffer du steak, respirer suffisamment d'oxygène pour arriver à demain matin. Et recommencer demain matin jusqu'à après demain matin, et recommencer après demain matin jusqu'à après demain matin. Voilà, c'était ça. C'était ça, les objectifs de vie de la plupart des hommes préhistoriques. Alors, ils faisaient de la musique, ils faisaient des poteries, tout ce que tu veux. Mais, si tu veux, il y avait quand même une immédiateté du peu de choses qu'est l'homme face à la nature qui faisait que tu pouvais pas trop partir en couille. Voilà, tu pouvais pas trop saisir la halde ou je sais pas quel le truc. Tu pouvais pas trop appeler SOS racisme pour je sais pas quoi. C'est-à-dire que c'est une époque où, en fait, tous ces trucs qui sont issus du confort ne pouvaient pas exister, en fait. Donc tu faisais des trucs grands parce que tu te régalais, tu faisais des blagues avec des pets, et tu te régalais parce que tu chassais, parce que tu avais des beaux animaux, parce que tu faisais des randos de bâtards avec aucune pollution visuelle ni pollution atmosphérique, donc les étoiles, elles brillaient quatre fois plus. Enfin, c'est incroyable. Et en même temps, des choses grandes, vous disais-je, parce que tu peux te faire bouffer par des animaux, parce que tu peux prendre une charge de rhinocéros laineux, parce que tu peux te faire attaquer par un tigre à dents de sabre, t'es en train de triper, t'as fait ta blague de paix, tout d'un coup, clac, t'as un énorme tigre à dents de sabre qui déboule et qui te découpe, si vous voulez. Voilà. Donc à l'époque, peu d'absurde. Peu d'absurde parce que la vie est ce qu'elle est. Et puis ensuite, on met du confort. On met du confort, on établit des villages qui deviennent des cités, qui deviennent des civilisations en réalité. Hein, voilà, Rome démarre comme dit Marc Aurèle dans Gladiator, seul un murmure pouvait faire disparaître l'idée de Rome. Voilà. Donc vraiment, c'est au début, c'est quelque chose de très ténu, de très fragile. Et puis petit à petit, les civilisations se développent, elles engagent de la puissance, elles forment des soldats pour les défendre, elles construisent des remparts, elles gaguent des meufs dans les terres. Mais c'est à débours de l'esclave. Là. Et c'est le début, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, les guerriers fabriquent une civilisation solide. Bon, au début, c'est le fascisme. C'est-à-dire que tout le monde est un militaire, les paysans, tout le monde est un militaire, sauf les paysans qui produisent la bouffe pour les militaires. Et les religieux qui consultent les dieux pour les militaires pour savoir si on peut aller foutre sur la gueule les Grecs ou je sais pas qui, ou les Celtes ou je sais pas qui. Donc au début, c'est vraiment la civilisation tripartite, voilà, avec les trois dénominations, Oratores, Lavorores et Bellatores, voilà, le guerrier, le travailleur, hein, l'artisan, le paysan, et le, on va dire, le politicien ou le religieux, parce qu'il faut quand même des administrateurs. C'est-à-dire que si la ville prend de l'importance, il faut gérer cette ville, donc il faut collecter de l'impôt pour pouvoir nettoyer la ville et compagnie. Bon, bref. Donc, si vous voulez, les cités, ben, elles grandissent, c'est des puissances militaires, elles se répandent, voilà, et puis au bout d'un moment, eh ben, en fait, elle a atteint une telle puissance qu'il faut nourrir tous les gens qui sont à l'intérieur, il faut administrer les provinces, il faut administrer les villages, il faut administrer les voies, il faut administrer plein de trucs, les administrations et tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait on crée du fonctionnaire. Hein. Voilà, on crée du mec qui est créé par l'État, mais il en faut. Il en faut, c'est pas un gros mot fonctionnaire, il en faut pour faire, et aujourd'hui, encore aujourd'hui dans notre civilisation à nous, qui est en train de s'éteindre, on en a trop, mais il en faut quand même, on a trop de fonctionnaires, mais il en faut quand même, les policiers, les militaires, les pompiers, le personnel éducatif, parce que malgré tout, oui les profs nous énervent parce que ce sont des communistes, mais il faut quand même des profs, et s'ils étaient moins communistes, en fait on se rendait compte à quel point ils sont importants pour la société, hein, pour fabriquer des gens instruits et sains d'esprit. Il faut des soignants, il faut du personnel soignant. Tout ça, c'est du fonctionnariat. En fait, ça ne peut pas fonctionner sur, donc, il faut des fonctionnaires. Le problème, c'est quand tu commences à avoir l'attaché ministériel, territorial. Mais on va y venir ça, hein, parce que je vous parlais d'absurdie au début. On va y venir tranquillement. Donc déjà, Rome. Eh ben voilà. Donc t'as Légionarius 1 et Légionarius 2850 qui se baladent dans je sais pas quelle province en Égypte là et qui tringlent comme ils tringlent de l'égyptienne parce que voilà c'est les boss et leur culture rayonne et ils punchline en latin, c'est la grosse vie quand les mecs ils boivent du gros pinard dans des coupelles en bronze, si tu veux, c'est la grosse vie en fait, ils chantent des trucs en latin, t'as des glaives, t'as des armures avec des boucliers estampillés, tout ça et tout, enfin c'est magnifique, le Montefortino là, le casque romain inspiré du casque celte, tu vois, c'est ça y est, t'es une armée, tu marches au pas, t'as des centurions, tu consultes les augures, c'est le style. Quand tu rentres à Rome, tu vas aux putes, après, oui, parce que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Donc après, tu vas voir des mecs se charcler au Colisée, puis il y avait les putes qui étaient juste à la sortie du Colisée parce que les mecs avaient regardé un spectacle de violence, donc ils sortaient, ils avaient les couilles pleines, donc là, voilà, tu vois, ça arrêtait pas. Donc chez les mecs, là, ils sont à l'espèce de l'acmé de la grosse vie. C'est l'acmé de la grosse vie, mais systématiquement, quand arrive l'acmé de la grosse vie, c'est quand la vie est grosse au maximum, d'accord? Quand la vie doit consulter une diététicienne parce qu'elle est beaucoup trop grosse, c'est le moment, en général, où ça part en couille. Pourquoi? Parce que la vie est tellement grosse qu'il faut plein de mecs pour administrer cette vie qui est très très grosse. C'est-à-dire que t'as une énorme armée, oui, mais du coup, il faut des trésoriers, il faut des messagers, il faut des mecs qui s'occupent du train, il faut des administrateurs, il faut des prélats, des préfets, des nanana, tu vois? Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ces mecs-là, c'est plus des combattants. C'est pas des paysans non plus, donc ils sont dans des bureaux. Alors certains d'entre eux sont investis, il y a pas de problème, hein. Certains d'entre eux se la donnent, et puis d'autres sont là parce qu'ils ont été cooptés, parce qu'en fait ils ont des copains qui sont bien placés. Ben c'est le début de la France en fait, hein, puisque la France ça n'est que ça. Mais si vous voulez, c'est l'ersatz de ce que va devenir la République, hein, voilà. Mais bon, il y a ce truc de copinage, de faire entrer tel mec à tel endroit, hein. Et là, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens des merdes. C'est le début des merdes, en fait. Des mecs qui sont là sans mérite, hein, parce que je connais un tel, et moi, mon père, au sein de la cité, là-bas, à la capitale, il est très très bien avec tel préfet qui a tel pouvoir de nomination, qui m'a nominé à moi alors que je suis une merde. Et c'est ça qui tue les civilisations. Mauvais administrateur égale sujet pas content, égale rébellion, égale travail mal fait. Donc en fait, il y a des problèmes de budget, donc on lève plus d'impôts, donc les gens ne sont pas contents. Tout d'un coup, un projet auquel tu voulais participer qui s'appelait Rome, ben, tu ne veux plus y participer parce que le rapport que tu as avec ce projet, c'est des préfets corrompus, des prélats corrompus et un impôt exorbitant. Et c'est le moment, en fait, où inexorablement, ce système est appelé à s'éteindre parce qu'il est trop dysfonctionnel. Parce qu'en fait, Dieu déteste l'injustice, il n'a pas fabriqué l'homme pour ça. Et au bout d'un moment, il est obligé de punir l'humanité si elle se vautre trop dans en fait l'immoralité, le dysfonctionnement et tout système qui se fonde dans l'injustice finit par disparaître. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez des mecs qui enculent des mignons dans des soirées dans des bacchantes là, ou je sais pas comment on dit là, dans des soirées ou les bacchanales, ou je sais pas comment on dit là, les soirées où les mecs ils picolent là du pinard en vénérant, tu sais, c'est le moment où c'est des espèces de fonctionnaires, mais les mêmes que vous avez si vous voulez à très haut niveau au conseil général, c'est le franc-mac moyen français, si vous voulez, c'est ça quoi, c'est l'entourage plus ou moins de mecs comme Jean-Michel Baillet, par exemple, ce genre de truc, des petits tribuns locaux qui ont leur petit pouvoir, voilà, donc avec leurs petits favoris, leurs petits réseaux, donc voilà. Et donc ce genre de mec-là, donc Festoy, est complètement coupé de la réalité du terrain et ça picole, ça fait n'importe quoi, ça va attraper des effets et ça va les déboîter et au final ça n'administre plus. Ou ça administre de manière dysfonctionnelle, c'est-à-dire avec les copains, plutôt que d'administrer avec des gens qui méritent. Plutôt que ce soit une nomination par rapport au mérite de tel mec à tel poste, c'est les copains. C'est qui est dans le réseau, qui a bien sucé la bonne bite pour arriver au bon endroit, voyez. Ou qui est-ce que je vais pouvoir tenir parce que j'ai une vidéo de lui sur un certain bateau en train d'avoir des relations sexuelles avec une petite fille. Hein, voilà. Les initiés reconnaîtront à qui je me réfère. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça. C'est des mecs qui sont tenus. Voilà. Ils sont initiés dans des sociétés secrètes et puis après on leur fait faire des dingueries pour accéder à des degrés. Et puis une fois qu'ils accèdent à ces degrés, ben en fait ils découvrent que la cérémonie qu'ils ont faite, elle était filmée et puis ils ont fait des choses qui sont répréhensibles par la loi. Donc après ils sont tenus. Donc ils doivent obéir à tel mec, tel prélat qui fait une politique qui va à l'encontre de l'intérêt des citoyens. Voilà. Bon, je pense que vous aurez compris. Et donc voilà comment se pervertit une civilisation, une cité, une nation, un pays ou un empire, c'est qu'en fait vous avez la décadence qui arrive presque immédiatement une fois que le guerrier a fait son travail d'expansion ou de sécurisation et qu'il faut administrer. C'est-à-dire dès que tu fais rentrer dans la pièce un type qui n'a pas été formé à la violence du réel, donc qui est un mec qui est un peu voilà, il est là par chance, il se l'est pas gagné ce morceau de pain. Et quand je dis morceau de pain, ça peut être des putes, de l'or, des faveurs, une maison. Des appartements somptueux, voilà, qui vont lui être donnés par l'État. Donc, dès que vous avez des mecs comme ça, mais en fait, vous créez de l'injustice, vous créez du dysfonctionnel. Et donc, bah en fait, Rome s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment, vous avez les patriciens, qu'on pourrait comparer aux parisiens, qui règnent sur un empire dont ils ne savent rien. Ils font des lois sans queue ni tête. Bon, il y a des humiliations parce que tel mec est censé représenter la grandeur de l'empire est en fait une sombre merde qui fait des partouzes. Bon, suivez mon regard. Voilà, il y a vraiment beaucoup de corrélations entre la fin de l'Empire romain et la fin de la République à laquelle nous assistons inexorablement, parce que la République, certes, gouverne très mal et se défend très bien, mais elle est tellement dysfonctionnelle qu'elle est vraiment en train d'arriver à bout de souffle. Les caisses commencent à être vides, les barbares sont dans la cité. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé dans Rome, hein. On va rester sur l'exemple romain. Mais Rome, en fait, un matin, ils se sont levés, les Romains. Ben, tous les métiers de service étaient faits par des esclaves germains ou slaves. Donc, en fait, ils étaient en majorité dans la cité. Les patriciens n'étaient plus des combattants, c'était des politiciens ou des rentiers. Donc, en fait, ils n'avaient plus aucune idée de ce que c'est que d'aller à la Maillotche. Donc, c'est des mecs qui sont incapables de défendre le cœur politique et le cœur spirituel et le cœur civilisationnel de Rome. Parce qu'en fait, ils passent leur temps à s'endoffer dans des soirées à 10 grammes en buvant du à déclamer des poésies dégueulasses. C'était ça, hein, les fêtes romaines dans le bas-empire, hein, donc au 4e, 5e siècle. C'était « Oh, it's in spiritu, wesh quante mi, je sais pas quoi », tu vois, et pendant ce temps, ça enfilait des esclaves, ça enfilait des jeunes garçons. Et en fait, tout ça, ben, ça conduit à quoi ? Ça conduit au fait que les esclaves assistent à ces trucs-là et se demandent « Mais pourquoi je suis au service de gens comme ça ?» Pourquoi est-ce que ces gens comme ça me dominent socialement ? Voilà. Et à l'époque, les esclaves, ou les guerriers d'ailleurs, parce que les Romains ne faisaient plus la guerre, hein, ils la faisaient partiellement, mais ils employaient surtout des tribus germaniques, ils employaient des Visigoths, des Ostrogoths, des Burgondes. Mais à un moment, les mecs ont dit, bah attends, pourquoi est-ce que je fais la guerre pour toi ? Pourquoi est-ce que je la ferai pas pour moi ? Après tout, t'es un mec faible, qui fait des soirées de parisiens, pardon, excusez-moi, de patriciens, et qui s'endoffe, et qui a plus aucune capacité guerrière, et qui a pas touché un glaive depuis 20 ans, tu vois. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais te mettre deux claques, et puis je vais prendre ton empire. Et je vais le désosser, et je vais en faire mon empire. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain. Les Germains, ils ont déboulé, ils ont mis des claques aux Romains qui étaient tous devenus métrosexuels, tu vois. Ils avaient des coupes à la Yamine Lamal, tu vois, avec des petites feuilles de laurier dessus. Les Germains, c'est-à-dire en fait les Allemands, sont arrivés, ils ont mis des claques à tout le monde, ils ont dit à partir de maintenant ça va pas être ça, à partir de maintenant on va refaire une société guerrière avec des rois qui sont élus, et donc on refait un cycle de guerre, donc là les Germains disloque l'Empire romain, que ce soit les Francs, les Visigoths, les Huns, ce que vous voulez, les Ostrogoths. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un cycle qui vient de se terminer. On avait démarré avec une Rome guerrière, on finit avec une Rome complètement dégueulasse. Et ben, on repart sur un nouveau paradigme. Donc, on arrête avec l'Antiquité et paf, c'est le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la période la plus pure. Pourquoi? Parce que tout va être mis en ordre pour que ça reste bien déter. Pour que les choses restent bien déter. C'est-à-dire que on a compris les leçons de l'Empire romain. On sait que quand on élève un enfant dans le confort et que on le force pas à se la coller à la guerre, on en fait une merde. Il sait plus ce que c'est qu'un sarrasin, il sait plus ce que c'est que le diable, il sait plus ce que c'est qu'un viking, il sait plus ce que c'est qu'un turc. Et donc à la fin, c'est une merde. À la fin, c'est une merde. Il croit que ce qui lui a été donné sera éternel. Donc qu'est-ce qui se passe? On l'attrape à la naissance, on lui fait taper dans des troncs d'arbres avec des épées pour qu'il s'habitue à avoir l'avant-bras, c'est-à-dire le manche en fait. On lui fait faire des exercices à l'épée, on n'arrête pas de lui dire qu'un jour il faudra qu'il meure à la croisade. On lui fait écouter des chansons de gestes faites par des troubadours occitans qui racontent en occitan les prouesses de Roland Furieux, c'est pas encore Roland Furieux à l'époque, c'est le Chevalier Roland. Roland Furieux sera à la Renaissance avec l'Arioste. Bon, bref. Donc en fait, ils écoutent des trucs, des poèmes épiques et ils sont là et tantôt ils apprennent à danser comme des damoiseaux pour pouvoir trancher des femmes méritantes, parce que la femme médiévale est méritante. Elle croit en Dieu, elle est bien éduquée, elle sait que le mal existe. Tu vois, déjà ça. Tu vois, parce qu'en fait, aujourd'hui, les femmes ne savent pas que le mal existe. C'est pour ça qu'elles ont une facilité à faire de la merde et à prendre la parole. Je rigole, évidemment. C'est catastrophique. Donc voilà. Donc, si vous voulez, le Moyen-Âge, pourquoi le Moyen-Âge va durer 1000 ans? Parce qu'en fait, il a été fait sur des bases extrêmement pures. D'accord. Au lieu de parler sur Twitter, les gueux se cantonnent à faire ce dans quoi ils sont bons, c'est-à-dire être des paysans qui sont bons, être des artisans qui sont bons, mais on leur pose pas la question de comment doit être administré le royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, quand on doit faire une cathédrale, eh ben c'est eux, ou quand on doit faire un château, ou quand on doit faire tourner un pays et nourrir les gens, eh ben c'est eux qui ont ce pouvoir-là. Donc d'ailleurs, le seigneur doit respecter les paysans. Il y a une espèce de d'ineptie comme ça de croire que les paysans étaient humiliés par le seigneur. Pas du tout. Le seigneur était le pouvoir du seigneur reposé sur le bon fonctionnement du paysan, puisque les paysans travaillaient pour eux-mêmes et pour le seigneur. Donc le seigneur a le devoir de défendre le paysan ou d'aller défendre le royaume s'il est vassal du roi de France et que le roi de France demande de le faire, et en même temps il doit défendre le paysan. Donc si vous voulez, il y a une espèce de mécanique qui va être très très bien rodée et qui va être merveilleuse, parce que c'est l'acmé de la civilisation française. Aujourd'hui encore, hein, je pose la question, les gens ont du mal à me citer une époque qui a duré plus longtemps que le Moyen-Âge et qui a donné de plus beaux joyaux architecturaux que le Moyen-Âge. Vous avez le grand siècle français, certes, mais il a duré beaucoup moins longtemps. Et beaucoup de ces créations ont été balayées par la Révolution française, bon, à part Versailles et compagnie, mais je veux dire, ça a duré très peu de temps. Là, quand même, au Moyen-Âge, on a une période qui dure 1000 ans, pendant laquelle on fabrique des trucs qu'on va visiter encore aujourd'hui, et qu'on valorise encore aujourd'hui, et qu'on considère encore aujourd'hui comme étant ce qu'on a de plus beau à proposer. Je suis pas sûr que Versailles, même si c'est beaucoup plus fin, même si c'est beaucoup plus sophistiqué, ce soit plus pur et plus beau que la cathédrale de Reims. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. C'est quelque chose qui se discute. Hein. Alors il y a des questions d'affinité. Hein. On peut trouver que le grand siècle français, c'est vraiment l'acmé. Moi, je suis pas sûr que foutre des perruques et raider dans un château où les gens se torchent avec les rideaux, ce soit plus pur que la cathédrale de Reims. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Bon, bref. Mais ça se discute. Je suis prêt à en discuter. Ou même certains joyaux de la Renaissance. Mais pour moi, la Renaissance n'est qu'un prolongement du Moyen-Âge. C'est juste le Moyen-Âge qui a pris une piqûre de testo, en fait, pour moi, la Renaissance. Déjà que le Moyen-Âge était très testo. Bon, bref. Et donc voilà. Donc, en fait, ben, on repart sur un cycle où c'est les guerriers qui fabriquent la société. Donc, en fait, est nommé à la gestion ben, des mecs, des guerriers. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fait, à certains endroits, pas partout, mais c'est pareil. On refait du copinage. On renomme à des postes des mecs qui devraient pas y être. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, c'est notamment le cas des Visigoths. ils se font envahir par les Arabes parce que ils étaient re-rentrés dans des trucs de d'administration avec des mecs qui étaient pas qualifiés, avec avec de la décadence, avec de la mauvaise gestion, et ils sont tombés. Alors qu'à d'autres endroits, en France notamment, la chevalerie a créé ses propres moyens de se maintenir, ses propres moyens d'être de se régénérer, donc de s'empêcher de dégénérer, et au final, ben vous avez comme ça pendant 1000 ans. Hein, alors, la chevalerie va émerger quand même assez tardivement. Elle émerge de manière un peu proto-chevaleresque vers la fin de l'an 900 et ça démarre vraiment en l'an 1000. Quoi. Voilà, en l'an 1000, on commence à avoir la notion de codification de la chevalerie petit à petit et au 11e, 12e siècle, elle sera totalement établie avec des ordres de chevalerie. Ce sera vraiment le triomphe de la chevalerie à ce moment-là. Et voilà. Et donc après, vous avez toute la seconde moitié du Moyen-Âge hein, qui va... vous avez 500 ans de chevalerie qui va perdurer. Et donc, en fait, ben, ça force les seigneurs, au lieu... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les seigneurs, qui c'est? C'est les grands bourgeois, si tu veux. Mais ils pondent des gosses qui vont dans des écoles où il n'y a que des... Il y a que des Marie Célestine et des Jean Célestin et du coup ou des Timéo et du coup ça fabrique des Tarlouses. Pourquoi? Parce qu'ils savent plus ce que c'est qu'un barbare. Hein, voilà. Alors que moi je suis allé au lycée du Mirail, vous voyez. Donc je sais ce qui menace la France. Bon bref. Et donc si vous voulez, j'en ai pris la mesure. Voilà. Si ta vie c'est être dans tel arrondissement d'enculé et de jamais te confronter au réel et de comment dire et d'être et de se dire que ce que tu as sera toujours là et que tu auras pas besoin de te battre pour ça, si tu veux, mais c'est déjà le verre est déjà dans la pomme. Alors qu'au Moyen-Âge, si tu veux, ils attrapent le gosse, même si on est en temps de paix, putain, il faut que tu sois des terres, prends des cours d'épée, va à la chasse, apprends à monter à cheval, mets des coups de lance, mets des coups de rein, tringle telle gonzesse, voilà, sois bon dans ça, prie, forme-toi sur la spiritualité, lis la Bible, na na na, tu vois. Donc t'avais des machines, et en fait, c'était tellement des machines que les gens les respectaient. Et si jamais ils avaient pas l'occasion de faire la guerre, ils faisaient des tournois pour quand même avoir goûté à la violence, pour rester dans le putain de réel. Et c'est pour ça que le Moyen-Âge n'a pas donné les plugs sur la place Vendôme et des vols de bijoux avec des nacelles par des barbaresques, mais la cathédrale Notre-Dame, Chambord c'est la Renaissance, mais Carcassonne, Sainte-Cécile d'Albi et j'en passe. Hein. La cathédrale de Metz que j'ai vue récemment qui est magnifique et la cathédrale de Soissons, qui est sublime, que j'ai visité à plusieurs reprises, et Saint-Sernin à Toulouse, qui date en plus vraiment du tout début du 12e siècle. Enfin bref, c'est magnifique en fait, c'est magnifique. Et c'est parce que on forçait les politiciens à être quand même un peu guerriers, d'accord, à être quand même un peu proches du peuple, c'est parce qu'on les forçait à faire ça qu'on les empêchait de devenir des enculés. Parce qu'en fait, naturellement, quand on a le cul bordé de nouilles, l'homme est ainsi fait qu'il devient une énorme merde, en fait. Il devient une énorme merde. Et le problème, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons que ça. Nous n'avons que des enculés. D'ailleurs, on peut continuer. Hein. La Renaissance va être, en fait, parce que le Moyen-Âge ne va pas mourir. Le Moyen-Âge va se transformer par la force des choses. C'est vous dire si le système médiéval était génial. C'est que c'est par la force de l'extension, si vous voulez, de la puissance médiévale à travers le monde, que le Moyen-Âge va se transformer. Il va pas y avoir réellement de rupture entre, comme il y a eu une rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, va y avoir une transformation du Moyen-Âge à la Renaissance. Pour moi, la Renaissance n'est qu'un Moyen-Âge accéléré, si vous voulez. Mais par contre, la Renaissance, elle, dans ce Moyen-Âge mourant, va commencer à refabriquer du fils de pute, va commencer à refabriquer du mec qui est un jouisseur et qui est plus uniquement un jouisseur, parce qu'on peut être un guerrier et jouisseur à la fois. C'est même d'ailleurs la culture française, c'est ça. Hein. Le chevalier français était à la fois un jouisseur et à la fois un guerrier. C'est-à-dire que quand il va aux croisades au Liban, si tu veux, bon, il débourre du sarrasin, ça se met des grands coups de hache dans la fif. Hein. Une fois que la bataille est perdue ou gagnée, si tu veux, et que tu croises une Libanaise un peu soin, bon, mais tu l'épouses parce qu'en fait, voilà quoi, tu vois, elle a des cils un peu longs et tout, elle sait bien faire à bouffer, t'as envie de manger des mezzés la nourriture libanaise délicieuse, et en fait, tu te cales avec elle, tu l'épouses, tu lui fais des gosses. Donc voilà, il y a le côté quand même, certes, la vie est une aventure où tu mets des coups d'espada dans la fif des hérétiques, mais en même temps, il y a un moment où voilà, tu te poses dans ton château, tu élèves ton gosse. Tu bois du bon vin là à Saint-Jean-d'Acre, à Quérac, avec d'autres chrétiens, bon, avec des chrétiens d'Orient, des chrétiens latins, et puis tu philosophes, tu te régales. Bon, il y avait aussi ça quand même. Hein, c'était un voyage, la croisade. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que c'est resté aussi présent dans l'esprit français, cette espèce d'amour pour l'Orient qui des fois nous a joué des tours. Bon, bref. Donc, si vous voulez, on a quand même au Moyen Âge cette notion de conserver une élite guerrière qui a prégnance avec le réel. Et là, si tu veux, tu as un pouvoir religieux très très fort. Ou quand tu commences à vouloir enculer de l'éphèbe ou de l'enfant, c'est pas comme avec la République. C'est-à-dire que si tu sodomises des enfants, tu ne deviens pas ministre. Vous voyez, ou préfet, ou je sais pas quoi. Tu brûles, en fait. Ça, faut comprendre. Ça, en fait, faut comprendre pourquoi la République va s'éteindre et pourquoi le Moyen-Âge a duré extrêmement longtemps. C'est qu'en fait, dans un des deux programmes politiques, le pédophile est brûlé en place publique, ce qui n'est pas le cas avec la République. Ce sont des gens même qui sont mis en avant, qui ont droit de cité, qui sont présentés à la télé. C'est la grosse différence. Faut mesurer, hein. Faut mesurer ce que ça veut dire au niveau civilisationnel d'avoir des pédophiles qui peuvent, par exemple, posséder de grands groupes de presse. C'est écrit sur leur Wikipédia et il n'y a aucun problème, ce sont des mecs, il n'y a aucun souci, voilà. Donc c'est pour vous dire, hein, au Moyen-Âge, on découvre que t'as encoigné un drôle, comme on disait, on découvre que tu es un bouilleur d'enfants, mais tu te faisais décapsuler la fif, en fait. Hein. Si tu veux, on t'attrapait, il y avait de l'outillage. C'est-à-dire que sur toi, on essayait absolument tout le rayon outillage de le roi Merlin de l'époque, en fait, tu vois. Donc, quand il commençait à avoir de l'hameçon qui va te chercher qui va venir te couper la fistule de je sais pas quel intestin, si tu veux, tu réfléchis à deux fois avant d'encoigner un gosse, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un système pur. Et la République ne l'est absolument pas. Voilà. Donc, il faut comprendre. Et donc, la Renaissance, qui est le prolongement du Moyen-Âge, va commencer doucement à faire acquérir à des gens une espèce de puissance qui n'est pas liée à leur capacité guerrière. Ils vont commencer à se centraliser, à être beaucoup sur Paris, et donc à devenir des merdes, puisque cette ville a une très forte puissance lorsqu'elle n'est pas administrée par une théocratie ou par un roi, je le précise, à fabriquer des énormes merdes, en fait. Hein. C'est une ville à fabriquer des merdes, hein, Paris. Ça veut pas dire que si vous habitez Paris, vous êtes une merde, mais c'est une ville qui présente tous les outils. Si vous n'êtes pas un peu déter, si vous faites pas attention, c'est une ville qui est une usine à fabriquer du fils de pute, vraiment. Parce qu'il y a tous les ingrédients pour fabriquer de l'enculé. Il y a tous les ingrédients pour fabriquer des grosses merdes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est ultra sécurisée. Elle est portée en fait vers la culture, mais pas forcément la culture classique. Hein, aussi vers la sous-culture. Elle pousse quand même via l'exposition de sa grandeur à une sorte de satisfaction qui n'est pas forcément liée à soi-même. On est très satisfait de vivre sur Paris parce qu'on vit à tel endroit. Est-ce qu'on a contribué à ce que cet endroit soit ce qu'il est ? Ben pas forcément. Donc, si vous voulez, ça crée de manière très pernicieuse chez les gens la possibilité d'être une grosse merde. C'est pour ça qu'il faut être très 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 vigilant quand on vit à Paris et qu'il faut absolument faire des trucs déter et ne pas devenir une salope. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup beaucoup de gens deviennent des salopes. Et la plupart des gens qui nous administrent tombent dans cet écueil, malheureusement. Donc vous avez comme ça la transformation de la Renaissance vers l'époque contemporaine. Donc en fait, grosso modo, les nobles qui vont à Versailles, ils font du Colin Maillard dans les jardins, ça commence à poursuivre des meufs, il faut rire d'une certaine manière, parce que si tu ris pas de cette manière-là, t'es un paysan. Donc avant, au Moyen-Âge, tu riais de cette façon, tu faisais des tu as des trucs comme ça, et là maintenant, les rires, ça devient des voilà, tu deviens un courtisan. Tu deviens un jouvenceau, tu deviens un courtiseau. Hein, je vous en ai parlé, ça, c'est le mélange entre le jouvenceau et le courtisan. Le jouvenceau et le courtisan, t'es un courtiseau. Voilà. Donc, on a des espèces d'oiseaux rares, ça commence à mettre des plumes sur le château. Madame la marquise! Enfin, vous voyez le genre de fils de pute, hein. T'as pas vu un mousquet de ta putain de vie, tu sais pas ce que c'est qu'un paysan, tu te fous de leur gueule, hein. T'es à Paris, tu manges de la brioche pendant que les gens sont en train de crever de faim, parce que si la Révolution française a eu lieu, c'est parce que la monnaie monarchie était décadente. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis royaliste, je suis pas monarchiste. Bon, bref. Et donc, voilà. Donc, en fait, faut pas se voiler la face. Vous aviez la monarchie qui était déjà pourrissante. La Révolution française n'a pas fait mieux. C'est-à-dire que ça a été encore pire, en fait, là, que la Révolution française. C'est-à-dire qu'on a pris les plus grosses merdes de comploteurs, les plus gros francs-macs qu'on a pu trouver, et on les a mis à des postes importants. Et comme ce sont des gens extrêmement tordus, certaines fois, tu as à la fin, tu as un pays complètement pourri et qui n'a fait que dégringoler année après année. Et c'est des ordres complètement stupides, parce qu'évidemment, la franc-maçonnerie étant très implantée dans l'armée, vous savez, la franc-maçonnerie, c'est un système de copinage. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais rentrer comme chef des armées tel mec, alors qu'en fait, il a eu une espèce de carrière accélérée, il a pas fait telle campagne militaire, et après, ça te donne à 14-18 des officiers qui sont complètement incompétents, ça te donne des officiers qui sont nuls, en fait, qui connaissent rien à la guerre, et qui vont envoyer au massacre des millions de Français. Donc, t'as déjà cette conséquence-là, et puis ça amène les troubles politiques, ça amène la dégénérescence, qui amène la Seconde Guerre mondiale, qui nous prive encore de ce que la nation a de plus solide. Donc, les derniers mecs qui avaient envie de faire quelque chose pour la France, ils sont partis en Indoche, en Algérie. Donc, en fait, t'as re-eu une vague de mortalité chez les mecs les plus solides de la nation, et à la fin, il reste que les administrateurs. Et c'est pour ça, aujourd'hui, en France, qu'on est dans un digénisme total. On est dans une civilisation qui est complètement absurde. Et c'est l'objet de ce podcast, hein, ça va être le dernier quart d'heure de ce podcast. On est dans l'expression absolue de l'absurdité du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir repose sur de l'absurdité totale, mais encore plus qu'à la fin de l'Empire romain. Encore plus qu'à la fin de l'Empire romain, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est dans l'illogique et l'humiliant centimètre après centimètre, seconde après seconde, dans toutes les micro-nanomolécules du réel, en France, aujourd'hui en 2025. Les bijoux de la couronne sont volés par une bande d'Algériens qui ont utilisé une nacelle qu'ils ont louée chez Kiloutou, avec le bip, 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 sans que l'État puisse faire le moindre truc, de tellement que c'est un état d'incompétent, de tellement que notre police est occupée à venir regarder si vous avez bien fait votre déclaration d'impôt ou à vous flasher quand vous faites du 55 km/h au lieu de 50. C'est ça qui est devenu l'état régalien de la République. On en est à ce niveau-là. Elle peut se faire voler lamentablement et de la plus humiliante des façons des bijoux par une bande de barbaresques sous-instruits pendant qu'elle est en train de traquer le citoyen français, lui tuer ses vaches quand c'est un paysan pour des maladies imaginaires, pour détruire l'agriculture en France au service des plans de je sais pas quel décideur européen complètement hors sol, pour tuer l'agriculture française, pour tuer les peuples européens. Donc on est là, on va aller redoubler d'intensité pour aller créer des protocoles, pour aller emmerder le père de famille s'il a l'outrecuidance de filer un coup de 12 à un enculé qui est rentré dans son appartement et qui le squatte, ou qui tente de le cambrioler, ou qui a violé sa fille. Aujourd'hui en France, si vous tirer avec un coup de 12 sur un mec qui s'introduit chez vous pour vous cambrioler, pour violer votre fille, vous allez en prison. Vous allez en prison pendant qu'il y a une bande de zouzous enturbanés qui a volé les bijoux de la couronne en plein jour dans le musée le plus grand et le plus célèbre du monde. Voilà où en est la République. À force de mettre des incompétents, des salopards, des lâches et des merdes à la tête des trucs importants, à la tête de l'administration de ce putain de pays qui est en déliquescence, qui est en train d'être détruit par une cohorte d'incompétents, en fait. Et nous, le peuple français, on est humilié, on est pieds et poings liés. Parce que si on ouvre notre gueule en podcast, les francs-macs nous envoient en garde à vue. Ils nous envoient en prison. Ils visent la récidive. Voilà. Et à côté de ça, t'as des mecs qui volent les bijoux de la couronne, et t'as des viols toute la journée, et t'as des coups de couteau toute la journée. Ça, messieurs, c'est la République. Ça, messieurs, c'est l'expression la plus stricte, la plus pure de la machine républicaine. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Voilà. Et c'est la punition pour toutes ces merdes qui nous traitent comme de la merde, c'est d'être la risée de l'histoire. La risée, enfin, c'est dramatique, hein, y a pas de quoi en rire, hein. Mais c'est d'être la génération de politiciens qui aura été la plus décadente, la plus minable et la plus préjudiciable pour le royaume de France. Et ils peuvent me mettre en garde à vue autant qu'ils veulent, je continuerai à le dire podcast après podcast, je continuerai à affirmer que cette république est une république malade, est un système malade, et qu'il faut le retour d'un roi de France, et qu'il faut le retour d'une théocratie. D'accord ? Les gens sont devenus des merdes, nos profs sont des communistes, nos racailles sont des pirates barbaresques, nos sont en proie au viol, aux raquettes, à la mendicité, à la clochardisation. Tu glisses dans des merdes de Pakistanais quand tu vas aller prendre le métro, mais c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer, c'est absurde, c'est de la merde. On n'est plus liés les uns avec les autres que par l'impôt. Il n'y a que ce putain d'impôt à 75% qui nous lie. On n'a plus aucune communauté de destin. On n'a plus rien à voir les uns avec les autres, bordel. Ça nous dégoûte. Ils ont réussi à nous dégoûter, putain. De tellement que c'est dysfonctionnel, tellement que c'est de la merde. Ils nous cassent les couilles. Ils nous taxent et taxent et retaxent toute la journée pour maintenir ce truc qui aurait dû s'écrouler parce que ça marche avec de l'argent qui n'existe pas, par des gens qui n'existent même pas eux-mêmes, en fait. Et c'est la faute de personne, il n'y a jamais aucun responsable. On se fait voler les bijoux de la couronne, c'est dilué. Alors, il y a un dysfonctionnement, mais qui n'est pas forcément lié à la sécurité, mais vos gueules! Vos gueules, il y a une époque, tu devais rendre des comptes vis-à-vis du roi, en fait. Il y a une époque, quand tu faisais de la merde, quand t'étais un système à bout de souffle, si tu veux, eh ben, il y avait des moyens de le régénérer. Et ça passait souvent par une convocation à la Sainte Église, à la Sainte Inquisition, en fait, si tu veux. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un pays dysfonctionnel au dernier degré. Chaque putain de décision qu'ils prennent est à l'encontre de l'intérêt des Français, putain, sur l'agriculture, sur l'immigration, sur les normes écologiques de mes couilles. Ils veulent nous tuer culturellement et civilisationnellement, c'est l'enfer. Et si vous dressez contre ça, soit vous faites suicider je sais pas où, d'ailleurs je rappelle que je ne suis pas suicidaire, hein. Si un matin on me retrouve avec 2 balles dans le dos et 1 balle dans la tête ou je sais pas quoi, ou je me suis défenestré soi-disant, je ne suis pas suicidaire, hein. Je kiffe ma vie, je le précise, hein, parce que là, si vous voulez, comme la République est en train de s'effondrer, elle est en train de faire des trucs de gogol, elle en train de refaire de la barbouzerie, à envoyer des mecs tuer des types qui l'ouvriraient trop sur certains dossiers. Hein. Ça, faut le comprendre. Il y a des sujets qui sont interdits dans la République, hein, donc ça me fait rire aussi. Les gauchos, quand ils disent « Ah, ça y est, on a décapité le roi, on est libre. » Eh ben putain, tu trouves qu'on est libre aujourd'hui ? Tu trouves qu'on est libre ? Il y a du délit de pensée, il y a du délit de presse à tous les niveaux. Dès que tu ouvres ta gueule, il y a un putain de procès qui débarque. On te fout en garde à vue à cause d'un podcast, et à côté de ça, t'as des multirécidistes, on découvre qu'ils ont violé 3 gonzesses, ils sont toujours en liberté, quoi. Voilà, c'est ça la République. Bravo. Bravo la République. Bravo la loge. Enfin bref. Donc voilà les amis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est tellement, il n'y a plus d'argent, parce qu'en fait il faut graisser la patte, il faut graisser les barbaresques pour qu'ils se rebellent pas. Il faut graisser la patte de tel copain. Il faut financer tel truc pour qu'on puisse faire tel détournement de l'argent dessus, parce que c'est ça, hein, la République, c'est ça. Hein. Donc, si vous voulez, c'est à bout de souffle. Et un pays à bout de souffle est fragilisé. Donc, il s'expose à ce qu'un pays plus puissant vienne le truster de l'intérieur, ce qui est déjà un peu le cas. Et il s'expose à ce que, parce que là, ils veulent faire la guerre à la Russie, vous savez. Parce qu'en fait, les mecs sont tellement hors sol qu'ils pensent qu'on peut aller se la coller contre la Russie. Mais attends, si t'es pas capable de contrôler 4 Algériens sur une nacelle, tu vas faire quoi face à l'armée russe, en fait, avec sa tsar bomba, en fait. Tu n'es pas capable, la seule chose... Non, mais parce que il faut rappeler à la République, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas, République française. Oui, faire des contrôles fiscaux sur les gens qui te critiquent, tabasser à coups de taxes ta population, tabasser des gilets jaunes, ça, c'est à ta portée. Ça, c'est à la portée de l'OCLCH, de la police. Ça, vous pouvez le faire. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas un pays en capacité d'aller faire la guerre virilement avec un pays comme la Russie. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Tabasser le gilet jaune, flasher des gens à 55 km/h au lieu de 50, ça c'est dans vos cordes, mais ne vous prenez pas pour un guerrier. Vous êtes un tabasseur de gens faibles, vous n'êtes pas un guerrier. C'est la République n'est pas un boxeur poids lourd qui va se taper avec un autre boxeur poids lourd qui est entraîné. La République est une racaille qui tabasse le faible. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Enfin, je veux dire, quand on passe, je sais pas combien de mois à essayer d'instruire un truc pour pouvoir envoyer Papacito 24 heures en garde à vue, et que derrière on n'est pas capable de garder les bijoux de la couronne dans le musée le plus visité du monde et de se la faire voler par 4 racailles en monte charge, on ne fait pas le malin. Ne faites pas le malin. Vous êtes, vous êtes bon pour aller emmerder le faible. Vous êtes fort avec le faible, mais vous n'êtes absolument pas fort avec le fort. Si la Russie nous déclare la guerre, elle va nous rouler sur la gueule. Et ça serait peut-être même une bonne nouvelle. Ce pays marche tellement sur la tête que ça serait une bonne nouvelle, en fait. Tu vois. Donc, si vous voulez, il y a un moment, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Ne racontez pas. Vous allez déployer l'armée française. Vous allez envoyer qui là-bas? Vous allez envoyer ce qu'on a de meilleur, c'est-à-dire nos militaires. qui vont mourir tragiquement dans une guerre qui va se faire à coups de drones et à coups de frappes satellites, où en fait leur capacité guerrière ne vaudra plus rien sur le terrain, et vous allez les sacrifier sur l'autel de la de pouvoir continuer à taxer 5-6 ans de plus, et après qu'est-ce que vous allez prendre des appelés après ? Vous allez prendre des appelés, c'est ça ? Vous allez aller au quartier du Mirail, dire allez, on va vous instruire pendant 4 mois et vous allez aller faire la guerre contre tonton Poutine. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous, triste sire, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes des merdes, vous êtes des merdes. Vous savez plus ce que c'est, le réel, en fait. Arrêtez, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Enfin, tabasser le français moyen, ça, c'est dans vos cordes, parce que français moyen face à l'État, qu'est-ce qu'il peut faire ? Le français moyen dans la paume de la main de l'État, tout corrompu et faible qu'il soit, vous pouvez serrer la main et vous pouvez l'exploser. Ça, vous êtes en capacité de le faire, mais parce que c'est pas difficile. Les institutions, la corruption, les juges rouges, ce que vous voulez, ils ont évidemment le moyen de briser l'individu, mais ça, c'est, il n'y a pas de fierté à avoir de ça, n'importe quel État peut le faire, hein. Même les États, si vous voulez, même la République démocratique du grosso merdo est en capacité d'écraser un citoyen, évidemment, mais ne parlez pas de faire la guerre contre la Sainte-Russie, ne parlez pas de faire la guerre contre un pays qui est baigné par l'orthodoxie et la croyance en Jésus-Christ. Ne vous prenez pas pour ce que vous êtes pas. Vous allez vous faire rouler sur la gueule, enfin. Vous allez envoyer qui à Poutine ? Il va y avoir qui sur le front ? Timothée le décadent, Nicolas le sarkozyste, et c'est quoi ? En fait, on va aller au front là, et en fait, les soldats russes vont avancer, et on aura des officiers qui nous diront. Tiens, on sera comme ça, ce sera une heure avant l'assaut. L'assaut pour aller reprendre Kiev. On sera dans la tranchée comme ça, et on aura Jean Sarkozy ou je sais plus comment il s'appelle. Pas Nicolas, je sais plus comment il s'appelle, le fils Sarkozy, il sera comme ça, il sera dans la tranchée, il dira « J'aimerais vous dire un truc avant qu'on parte au combat. Une fois, j'ai mangé une mangue, j'ai fait une journée de cheval, j'ai mangé une mangue, je ne savais pas qu'une mangue pouvait avoir un tel goût. Allez, à l'assaut pour la République. Allez les Français, allez les goyes, à l'assaut. Allez, baïonnette au canon, on va sortir. Cette fois-ci, c'est la bonne guerre. On va sauver la France. Les Russes veulent détruire la France. On n'est pas capable de contrôler le moindre Zoulou qui se balade dans la capitale française, qui viole, qui poignarde et qui tue le petit Thomas à Crépole. Mais on va faire la guerre contre la Russie. Ah oui, il faudrait la musique de Bénil. Moi, ce que je propose, c'est qu'en fait, on fasse la guerre contre la Russie et qu'en fait, on est comme à la... c'était la... Pas la Première Guerre mondiale, pardon. C'était la guerre de 30 ans, il y avait du tambour. Il y a eu tambour et du fifre. Eh ben, on en est devenu des gros fifres, donc pourquoi pas avoir du fifre, re-avoir du fifre. Vous savez, c'était monté à la soie avec la petite flûte. Non, ça, c'est la trompette de la cavalerie américaine, mais c'est... Les tambours et tout. On devrait avoir ça, mais version 2025. On devrait avoir des tanks qui nous diffusent la musique de Bénil. Pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'est génial pour en BO, comme ça, de la guerre de la République contre la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, ton pays est en train d'être détruit par des hordes d'orques venues du Mordor, si tu veux, mais ton ennemi, c'est ton frère orthodoxe de Moscou. C'est lui l'ennemi, en fait. Tu vois, et puis quand tu rentreras, ben, c'est possible que tu prennes un couteau dans la gargante par un gobelin. Tu vois, ça va être rigolo, ça. D'aller faire la guerre pendant 4 ans contre les Russes, tu rentres chez toi, il y a un squatter, et tu peux prendre un coup de lame par un gobelin. donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille au front. Donc ce soit, je sais plus comment il s'appelle, Pierre, Nicolas ou Jean Sarkozy, je sais plus comment il s'appelle, qui soit notre officier, qui se fasse pousser un peu la moustache, comme pendant 14-18, comme pendant le premier génocide français, le deuxième, pardon, après la Vendée. Le deuxième génocide français, donc on prend Sarkozy, là, le fils Sarkozy, on lui fait faire une moustache, il nous parle de mangue juste avant d'aller au combat, et puis là, on se met un tank Leclerc sur lequel on monte un porte-voix, et puis il nous met la musique de Bénil. Attendez, on va l'écouter quand même. Non, mais on va l'écouter. Non, mais parce qu'en fait, je veux que vous ayez accès à la BO. Je veux que vous ayez accès à la BO de la dernière croisade du peuple français pour sa liberté contre son ennemi naturel, évidemment, qui est le russe. Hein. Ton ennemi naturel, c'est pas du tout les corrompus qui sont en train de brader ton pays et de le détruire, hein, de détruire son agriculture. Ton ennemi, c'est pas du tout le gobelin et l'orque moyen qui sont en train de planter ta sœur et la violer post-mortem. Non, ton ennemi naturel, et évidemment, c'est le russe, hein, parce que lui, il t'a dit nique ta mère. Lui, aujourd'hui, dans le RER, il t'a dit nique ta mère. Lui, aujourd'hui, dans le RER, il t'a expliqué que la colonisation, tu vois. C'est ça, ton ennemi, en fait. C'est Ivan le Ruskov. Tu vois, c'est la menace, en fait. Ton ennemi, c'est la menace. Voilà. Il a fait trop de vidéos pas bien sur YouTube. C'est lui qu'il faut attaquer. Alors, attendez, bougez pas. On va se mettre ce hit incroyable. Moi, je crois. Mais en fait, on devrait abandonner la Marseillaise. On devrait abandonner la Marseillaise et vraiment prendre cette musique pour, je trouve, pour hymne. Écoutez à quel point c'est génial. Vous êtes prêts ? Allez, vive la France ! Vive la République ! Allez, on va manger une mangue à Moscou ! On va manger une mangue à Moscou, allez, c'est parti ! Oh, je suis content d'être à 75% d'impôts. 75% de pot. Taxe sur le carbone. Taxe sur la voiture. Taxe sur l'oxygène. Taxe sur ta mère la pute. Voilà, ça serait génial. Ben, on devrait jouer cet hymne-là comme ça. Ben, c'est parti, on peut mettre des mecs avec la couille qui dépasse du slip pour faire l'ouverture des JO. Mais c'est, ça y est, on le dit qu'on est un cirque. On se met tous un nez rouge. Moi, je propose cette loi. On se met tous un nez rouge et on va affronter les Russes avec un nez rouge comme ça. En disant bonjour, on est Homo Republicanus et on va défendre, on va défendre les valeurs de la République. Bande d'ignobles fifres, je vous méprise. Bon, la bonne nouvelle, c'est que comme tout spectacle de clown, à un moment il y aura une fin parce que si tu veux, le public va se lasser et puis faute de clown, on va à un moment ça va tomber et puis il faudra reconstruire une France avec. Avec le Christ, avec voilà, faudra que le roi, faudra que le fils ou la fille du roi Louis Van Bourbon, la fille du roi Louis Van Bourbon se marie avec un. Ça serait un super truc politique. Il faudrait que la fille de Louis Van Bourbon se marie avec un duc de Normandie ou un noble de Savoie, tout ça pour faire un enfant qui soit moins espagnol, parce qu'apparemment, moi, il y a beaucoup de gens qui sont gênés par le fait que Louis Van Bourbon soit hispanophone. Bon, pourquoi pas. Écoutez, il faut s'adapter et peut-être que ça serait bien que politiquement il marie sa fille à une famille noble de France, des Normands ou des Savoyards, ça serait sympa. Et puis on remet la descendance de Louis XVI sur le trône. On nomme l'abbé Raffray dans un ministère de recristianisation de la France. Et ça serait super. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo avec l'abbé Raffray là prochainement. J'ai envie de faire du contenu. Comme je pense que les podcasts vont passer sur le Patreon, parce qu'ils sont repris en permanence. Vous savez, mes stories sont reprises. Tout mon contenu est posté sur des chaînes de merde sur YouTube. Donc à un moment, je pense que je vais tout mettre sur. Je vais tout mettre sur Patreon. Je pense que ça va être voilà. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, il est très certainement possible que le prochain podcast soit sur mon Patreon. Voilà, profitez parce que je supporte plus que mes podcasts soient repostés. Donc voilà les amis. Il risque d'être le prochain même dès le prochain podcast, il risque d'être sur Patreon parce que il y a pas de raison. Voilà, j'en ai marre d'alimenter le contenu d'autres personnes et puis YouTube ne supprime pas ces contenus. Donc en fait ça suffit. Donc voilà et puis du coup pour continuer quand même à être présent sur et à faire mon boulot hein, d'évangélisation et mon boulot politique. Bon après ça fait 10 ans quand même. Donc le mec qui veut voir, il voit, le mec qui veut pas voir, il veut pas voir. Je veux dire là dans l'intégralité des formats et des vidéos que j'ai fait avec tout ce que j'ai défendu, toutes les émissions que j'ai faites, je pense que le mec qui veut se politiser, le boulot il est fait. Donc maintenant, il s'agit de parler aux gens qui sont vraiment engagés à me défendre et à m'aider. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses, c'est de les récompenser. Je parle des gens qui sont abonnés à mon Patreon et qui me soutiennent. Je pense que maintenant, il est légitime, après avoir fait 10 ans de gratuité, de me tourner vers ce public-là qui est un public qui me soutient. Voilà. Donc voilà, mais je ferai quand même du contenu avec la Béraffray. Je sais pas si ce sera public d'ailleurs, je sais pas. Moi, j'en suis à un point où je pense que maintenant, il faut parler aux gens qui sont engagés. Et voilà. Donc, il y aura un format, je pense, avec l'abbé Raffray. J'aimerais bien faire un format avec l'abbé Raffray, si possible régulier, ça serait super. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Donc là, je vais tourner une vidéo a priori fin novembre ou début décembre, justement avec la Berafrée. Donc ça arrivera assez vite. Ça c'est facile à monter, donc ça arrivera assez vite. Et la vidéo avec Jules, on a pris du retard parce que mon monteur est parti en vacances, que moi-même j'ai eu mes petits ennuis judiciaires. Donc ça a pris du retard, mais ça va arriver, les amis. Voilà. De toute façon, c'est gratuit. Donc voilà. Bon. Prochain podcast très certainement sur la plateforme Patreon. C'était le dernier sur les plateformes pour Spotify qui en plus ne me mettent pas en avant, triche sur les chiffres et tout ça. Donc il y a un moment où ça va tout ça va s'arrêter. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et merci encore de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura donné envie de, une fois que cette république sera tombée, rebâtir un joli pays avec un peu plus de sens et un peu plus de respect et d'équité entre sujets du Royaume de France. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.